Bonjour à vous, bonjour aux trois régions.
Vous êtes venu en voiture
Horrible.
J'avais dit pas très agréable.
Horrible, ouais. Je suis venu de Lausanne, donc déjà le périphérique de Lausanne, c'est le purgatoire à cette heure-là. Et puis ensuite, on s'impatiente, hein, parce que sur la route, c'est chacun pour soi. Surtout quand on est pressé, on se dit, il faut absolument que j'arrive au studio à telle heure. Et puis on se prend dans les embouteillages, et puis là, la pression monte, hein, c'est inévitable.
Et le statut d'automobiliste, justement, il a ce site particulier que la personne la plus courtoise, la plus polie, la plus placide peut se transformer en harpie dès qu'elle a un volant entre les mains. C'est ça qui vous a particulièrement
exact,
intéressé.
Oui, c'est exact. Bon, ça, c'est l'aspect psychologique de l'automobiliste, mais on le constate. Vous prenez quelqu'un de très sympa, de très courtois, de très calme, vous le mettez derrière un volant. Généralement, il se métamorphose en primate assez vindicatif et assez agressif, assez vulgaire. Même, d'ailleurs, vous voyez vous-même, hein, le nombre de fois que vous pouvez jurer par rapport à certains comportements que vous croisez sur la route. Mais c'est normal parce que, en définitive, et on le sait du point de vue psychologique, lorsqu'on se met derrière un volant, d'abord il y a une exacerbation de la territorialité, c'est-à-dire qu'on devient un animal extrêmement territorial, et ensuite il y a une exacerbation aussi de l'égocentrisme. Et en plus, comme nous sommes quand même des primates, hein, nous partageons 95% de notre génome, de notre patrimoine avec les chimpanzés qui sont des primates extrêmement agressifs, et bien toute cette agressivité remonte. Et chez le primate, figurez-vous, qu'est-ce qui apaise? C'est l'échange de regards. Lorsque deux primates se regardent, eh bien, il y a quelque chose d'apaisant, de pacificateur. Or, quand on est en voiture, on ne peut pas croiser le regard de l'autre. Ce qui fait que ça contribue aussi à une forme, effectivement, d'exacerbation des passions.
Heureusement que les primates ne conduisent pas, donc.
Oui, mais bon, mais figurez-vous que nous sommes des primates. Donc oui, les primates conduisent.
Non, donc ça veut dire que la route a toujours été un terrain d'affrontement, l'automobile un support de pouvoir de montrer son... On est là.
Ouais, bah écoutez, je pense qu'il y a quand même certaines personnes, notamment très âgées, qui peut-être gardent un peu leur calme. Il y a aussi des gens courtois, mais disons que ce n'est pas la norme. Et moi-même, à la limite, je peux être courtois lorsque je ne suis pas pressé, lorsque j'ai le temps, je peux faire un signe de la main pour céder une priorité, etc. Mais en général, ce qui est assez énervant, c'est que on respecte soi-même assez rarement toutes les règles de la circulation, lorsqu'on voit les autres qui ne le respectent pas. Alors ça, c'est très énervant. C'est très énervant. Hein. Notre propre comportement vu à travers les autres, il y a quelque chose d'effectivement très énervant.
Alors, il y a le salon de l'automobile à Genève, hein, qui ouvre aujourd'hui. Alors, pour vous, c'est parfois comparable à un marché aux bestiaux, hein, ou même parfois une manifestation que vous comparez au pèlerinage religieux.
Mais oui, parce que la voiture est aussi... Avant, on avait les marchés, c'est vrai, les marchés aux bestiaux. Ça a pratiquement disparu, sauf dans quelques zones rurales. Il y avait aussi les grands pèlerinages religieux. Et puis, les salons de l'auto, c'est une espèce de subtil mélange entre les deux. Parce que, bon, les voitures ont remplacé les bestiaux, les chevaux, les vaches, etc. Et puis, il y a une forme de religion de la voiture.
Oui, d'adoration.
D'adoration même. De la voiture. Donc, c'est ces déplacements de masse pour aller s'incliner devant les nouveaux modèles et devant les vestales qui sont posées sur les capots.
Bon, il y en a un peu moins cette année, apparemment.
Comment ?
Il y en a un peu moins cette année.
Il y en a un peu moins, puis alors j'apprends effectivement, c'est l'occasion d'en parler aussi, puisque c'est la journée des droits de la femme, qu'il y a des messieurs maintenant, et puis qu'il y a une statistique qui tente à prouver que les jupes des femmes qui posaient, des hôtesses, se sont un peu allongées, ce qui n'est pas un mal.
Alors, voiture objet de culte, sous l'entrée carrosserie, vous écrivez, Georges Pop, son éclat et sa netteté sont une priorité vitale pour certains conducteurs psychiquement déréglés qui se figurent que leur bahut est la résidence de leur dignité, le siège de leur distinction et la vitrine publiquement observable de leur imaginaire réussite sociale.
Je m'étonne moi-même
sociale.
Des fois quand on me relit. Quel talent quand même.
C'est ce que vous avez écrit.
Absolument. Non, mais c'est vrai que...
Du coup, elle vous inspire aussi la voiture.
Mais forcément. Cela dit, bon, moi j'ai une voiture tout à fait ordinaire, je dirais. Donc je ne place ni ma dignité, ni ma, disons, ma situation sociale à travers la voiture. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, la voiture, c'est aussi une vitrine de sa position sociale, vraie ou fausse d'ailleurs. Et on sait que parfois certains, surtout des hommes d'ailleurs, hein, sacrifient passablement de leur budget, quitte à refiler à leurs enfants, à leur épouse du cervelas et des cornettes à longueur de semaine pour pouvoir se payer une voiture qui éclate.
Alors, dans ce dictionnaire, il n'y a pas de tête de Delco ou de joint de culasse.
Non, c'est pas un dictionnaire technique. Hein.
C'est vraiment les aspects historiques et psychologiques qui vous ont intéressé.
Oui, parce que je voulais d'abord, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un mécano, je suis un simple journaliste. Donc, je me suis intéressé comme un béotien à ces comportements et à cette histoire de la voiture. Parce qu'en définitive, à travers cette définition, on explore... un siècle et demi de mariage entre l'homme et la voiture. L'homme au sens général, entre l'humain et la voiture. Et c'est une forme de symbiose qui est assez fascinante.
Alors, dans ce livre, Georges Pope, vous parlez de la place de l'automobile dans nos vies, des comportements des automobilistes, cyclistes, motards et piétons, avec beaucoup d'humour. Vous nous racontez également l'histoire de l'automobile. Et puis, on est le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. On peut peut-être s'arrêter sur quelques femmes qui ont marqué l'histoire de cette industrie.
Il y en a,
avec peut-être pour commencer Mary Anderson, c'est au chapitre essuie-glaces.
Oui, c'est vrai, c'est une Américaine qui a inventé les essuie-glaces au début du 20e siècle. Elle n'était pas du tout dans ce domaine, elle avait des chevaux, je crois. Puis un jour, elle est allée à New York, elle a pris le tram de l'époque et elle a constaté, alors qu'il pleuvait, que le conducteur du tram sortait la tête du tram, précisément pour voir sa route, parce que les vitres étaient mouillées, il ne voyait plus rien. Puis elle a imaginé des balayettes, elle s'est mise d'accord avec un artisan qui a fabriqué des balayettes. Elle a déposé un brevet, mais voilà, elle a été vers les constructeurs. Ils se sont tous fichus de sa gueule, si vous me passez, ça n'a aucun intérêt, madame. Le brevet a couru jusqu'au début, à la fin des années 10, donc autour de l'année 20. Et lorsque le brevet est tombé, tout le monde s'y est mis. Chemin de fer, voiture, avions, tout le monde s'y est mis. Bien sûr, tout le monde s'est mis à l'essuie-glace et la pauvre dame n'a pas touché un seul copec. Mais comme elle était maligne, elle a quand même fait fortune dans l'immobilier, ce qui fait que c'est une belle revanche pour elle.
Oui, il me semblait bien qu'il y avait toute une histoire autour de l'invention de cet essuie-glace qui, effectivement, n'avait pas rapporté grand-chose à
la pauvre inventrice.
Je me souviens pas, d'ailleurs, que c'était une dame. Il y en a d'autres, hein, Marie-Adrienne, Anne-Victurienne, Clémentine de Rochechouart, oui. De Mortemart.
Madame Veuve-Clicquot.
Oui, hein, oui.
C'est plus simple.
Voilà, Madame Veuve-Clicquot.
En plus, c'est un vrai nom de BD. Hein, elle pourrait être dans un Tintin.
Donc, elle est là, si je me souviens bien, parce que... c'est tellement dense hein, que finalement je me souviens même pas de tout ce que j'ai écrit, mais je crois qu'elle a d'abord elle a créé le premier automobile club en France pour femmes parce que elle adorait rouler, mais en fait l'automobile club de France était réservé aux hommes. Donc elle a créé un automobile club pour les femmes et je crois qu'elle a écopé la première amende en France pour excès de vitesse. C'était dans le bois de Vincennes ou de Fontainebleau, je ne sais plus très bien. Enfin voilà, elle est entrée dans l'histoire et elle est entrée dans l'histoire aussi pour le champagne qui porte le nom Clicquot, mais voilà, elle a joué un rôle déterminant effectivement dans l'accession des femmes au volant, qui est quand même, parce que l'automobile est quelque chose de très ambigu, c'est à la fois un instrument de liberté, mais aussi un instrument d'esclavage, ça a permis à de nombreuses femmes à accéder à une forme de liberté, alors que la voiture était réservée aux hommes, hein, au début, quasi exclusivement.
Et puis quand on parle voiture et femme, on peut pas oublier Simone, en voiture Simone.
Ah, Simone, c'était une... Bah oui, parce que ça c'est l'expression, hein, en voiture Simone, bah, c'était une Française qui faisait du rallye, excellente automobiliste, qui est entrée dans la légende. Et puis, dans les années 60, sur la télé française, à 60-70, il y avait ces fameux jeux interclubs. Et puis, il y avait à côté de Guy Lux, qui était un animateur vedette de l'époque, il y avait une certaine Simone, co-animatrice.
Simone,
exactement. Et puis, en voiture Simone, donc, ils ont en quelque sorte réhabiliter cette formule qui datait des années 30 et c'est passé dans la langue française pour dire allez on y va.
Et puis on l'a dit tout à l'heure, sur la route, alors la courtoisie est une qualité souvent absente.
Absente.
Complètement absente.
Écoutez, on est tous parfois un peu courtois lorsque ça nous passe par la tête, mais en général, on est assez vindicatif quand on est au volant, faut quand même l'admettre.
Même quand on est piéton puis qu'on croise des automobilistes, finalement, on devient les mêmes. Hein.
Mais chacun adopte son rôle. Si vous mettez au volant, vous vous transformez en automobiliste, vous sortez de la voiture, vous vous transformez en piéton, et vous prenez un vélo, vous vous transformez en cycliste, et chaque fois avec des comportements qui ne sont pas forcément des comportements d'une grande courtoisie. D'ailleurs, moi, à chaque fois que je m'arrête devant un passage pour piéton, et puis que je dis à un monsieur ou à une dame, passez comme ça élégamment, puis il passe sans même un regard et sans même me remercier, je peux vous dire, excusez-moi, je me dis, même si je suis confiné dans mon habitacle, je dis, mais quel sale con. Pourrait quand même dire merci.
Alors, il y a les insultes, évidemment, puis il y a le doigt d'honneur qui a sa place dans votre dictionnaire.
Alors, doigt d'honneur, contrairement à ce qu'on pense, il a été inventé dans l'Antiquité. On le trouve déjà dans certaines pièces de l'Antiquité grecque. Et puis, il a surtout été adopté par les Romains, qui l'appelaient digitus impudicus. Donc, en fait, ça veut dire quoi, un doigt d'honneur? Un doigt d'honneur, c'est une verge turgescente qui vous invite à la sodomie passive. Donc, c'est une injure assez grave. Mais ça existait déjà à l'époque des Romains. Et comme les Romains ont quand même inventé le passage clouté, ils circulaient en char, ils circulaient en chariot, je me dis que peut-être non pas les automobilistes, mais les hippobilistes, je ne sais pas comment dire, de l'époque se faisaient déjà en se croisant le doigt d'honneur. Va donc, et pauvre tarte.
Georges Pope, en vous plongeant dans l'histoire de l'automobile, est-ce qu'il y a un fait, un personnage qui vous a particulièrement marqué?
Cugnot, c'est l'homme qui a inventé la voiture à la fin du 18e siècle. Il a inventé ce qu'on appelle le fardier de Cugnot. D'ailleurs, on en trouve un encore dans un musée parisien. Fardier, c'est une espèce d'énorme chariot à vapeur, sans frein, sans rien. Cugnot l'avait inventé par amour des chevaux pour tracter les pièces d'artillerie sur les champs de bataille à la fin du 18e siècle. L'armée française l'a essayé, mais comme ce machin n'avait pratiquement pas de direction et pratiquement pas de frein, il s'est écrasé contre un mur et donc on y a renoncé. Mais c'était l'étincelle qui, quelques décennies plus tard, a provoquer ce que j'appelle l'âge de la voiture, parce que nous vivons l'âge de la voiture, notre civilisation est marquée par la bagnole, et donc voilà, c'est l'étincelle première, c'est la première voiture automobile, c'est le fardier de Cugnot.
Georges Pope, le dictionnaire impertinent de l'automobiliste, c'est paru aux éditions Cavedita.
Disponible partout.
Avec des dessins de François Marais, on ne l'a pas cité.
Très sympa, Marais.
Les détails tout à l'heure sur la page de Format A3. On vous remercie beaucoup d'être venu ce matin dans Format A3.
Mais je vous adresse une bénédiction laïque et vous remercie d'exister. Continuez sur les trois vecteurs.
Oh oui, alors,
merci beaucoup.
On ne va pas se gêner.